monde se connaît, ou presque. Il y a certainement des personnes âgées qui savent encore quelque chose. Ce qui s'est passé dans un petit village comme l'Écluse, c'est traumatisant, quoi. Beaucoup de soupçons, mais pas de coupables, malheureusement. C'est un crime parfait dans un petit village.
Bonsoir, l'amour et la jalousie. Albert Lermoyer aimait-il trop les femmes au point d'être assassiné dans son sommeil une nuit de l'hiver 1983 où il dormait seul. Près de 40 ans après, la mort de l'adjoint au maire de L'Écluse, petite commune du Nord, demeure un insondable et palpitant mystère criminel. L'enquête va durer une dizaine d'années et révéler la double, triple, voire quadruple vie de la victime, un sémillant célibataire apprécié de tout le monde. Les gendarmes puis les policiers vont chercher dans cette vie privée agitée, le mobile du meurtre est vite se heurté au lourd silence d'un village où tout le monde se connaît, où chacun a sa petite idée sur le crime, mais où personne ne dit rien. C'est cette histoire dans laquelle les pistes s'entremêlent, comme dans un roman d'Agatha Christie ou de Simenon, que nous allons raconter ce soir. Qui en voulait autant à Albert Lermoyer au point de l'exécuter? Pourquoi la vérité ne se montre pas? Question posée ce soir à nos invités, parmi lesquels le juge Éric Alphen, l'un des juges qui avait instruit cette affaire.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir donc, dans l'heure du crime, le meurtre de Albert Lermoyer à l'hiver 1983 dans un village du Nord. L'adjoint au maire, célibataire amical, figure locale qui faisait l'unanimité, est retrouvé sans vie dans son lit. Ce mardi 25 janvier 1983, dans la matinée, la belle-sœur d'Albert Lermoyer se demande pourquoi ce dernier n'est pas passé à la maison pour le petit déjeuner. Depuis toujours, Albert, un célibataire de 47 ans, a l'habitude de prendre tous ses repas chez son frère et sa belle-sœur. Ils habitent juste à côté, rue de la Fontaine, à L'Écluse, une petite commune du Nord, posée entre Arras, Cambrai et Douai. Albert était chez eux la veille au soir pour le dîner. Il avait l'air en forme, il ne se plaignait de rien, il n'avait pas l'air malade. Il a allumé une cigarette, puis est rentré chez lui au numéro 27, une demeure en briques, l'ancienne ferme familiale où il vit seul. La belle-sœur est inquiète. Elle se rend donc chez Albert et trouve la maison silencieuse. Elle grimpe jusqu'à la chambre. Son beau-frère semble profondément endormi. Côté gauche du lit, la tête sur le côté droit, elle s'approche et comprend aussitôt. Son beau-frère ne respire plus, ni blessure ni sang. L'homme est mort dans son sommeil, sûrement d'une crise cardiaque ou d'un AVC. La belle-sœur prévient aussitôt son mari et le maire de la commune. Le médecin du village, le docteur Jean Zarimba, est appelé pour constater le décès. Quand il arrive dans la maison, il croise une foule de personnes, parents, amis, accourus après avoir appris la nouvelle. Le docteur Zarimba est intrigué par une petite plaie au coin de l'œil gauche qui a provoqué un glaucome à l'œil. Peut-être une coupure, mais le docteur pense à autre chose, à une blessure par balle. Il manipule alors le crâne et constate un mince filet de sang qui s'échappe de l'oreille droite. Il s'agit selon lui de l'orifice de sortie du projectile. La balle a traversé de gauche à droite le cerveau, il en est certain. On a tué Albert Lermoyer. Le permis d'inhumer est refusé. Dans les heures qui suivent, les gendarmes débarquent au numéro 27 de la rue de la Fontaine. Une scène de crime loin d'être intacte vu le nombre de curieux qui ont déjà défilé ici. Ils cherchent la balle qui a tué Lermoyer, adjoint au maire, ouvrier des établissements Stora Béguin, un papetier qui fabrique entre autres le catalogue de la Redoute. Deux jours plus tard, la balle est retrouvée fiché dans une plinthe de la chambre à coucher de la victime. Elle est minuscule. La balistique indique qu'elle a été tirée par une arme ancienne, un revolver espagnol modèle 1892, un calibre 8 mm, une arme longtemps en dotation dans l'armée française. Bonsoir Marie Goodson.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à La Voix du Nord et vous publiez ces jours-ci le livre « Mais qui a tué l'adjoint de L'Écluse ?» dans la collection Crime, La Voix édition. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi s'intéresser à cette histoire que je ne connaissais absolument pas, qu'on a presque oubliée, sauf peut-être sur place, Marie Goodson, dans ce village du Nord.
C'est vrai, au départ, c'est un fait divers qui est complètement local, en fait, et qui n'est pas connu à l'échelle nationale. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est un article d'archives qu'on m'a donné un jour et qui m'a donné envie d'en savoir plus. Donc, j'ai passé 2-3 coups de fil et à partir de là, j'ai eu plein de témoignages. Et donc, j'ai continué à mener une petite enquête sur cette affaire.
Oui, même une grande enquête, parce que votre livre est très fouillé et tout à fait passionnant à lire. On remonte le fil d'une enquête et d'un crime qu'on a aujourd'hui oublié. Marie Goodson, qui est Albert Lermoyer? Tout simplement, déjà, à quoi est-ce qu'il ressemble, cet homme?
Bah alors, ce que j'écris dans mon livre, c'est que déjà, il est plutôt bel homme, Albert Lermoyer. C'était un célibataire qui a 47 ans au moment où on le tue, en 83. Et il est plutôt élégant, il a un physique soigné. Ce que j'aime bien dire, c'est que si aujourd'hui, il s'inscrivait sur un site de rencontre, il aurait sûrement des réponses. Il aurait sûrement du succès, oui, je pense. c'est quelqu'un... En plus, qui est très apprécié, qui a un certain charisme à l'échelle de l'Écluse, et puis qui a plein d'activités.
Hein. Alors, il est adjoint au maire, hein, c'est ça?
Voilà, il est adjoint au maire, c'est une fonction qui était déjà occupée par son père, et puis qu'il a reprise, il est assez populaire, il a fait pas mal de voix lors des élections, et puis en plus de ça, il est ouvrier papetier, comme vous l'avez dit. Et il a une petite ferme vivrière. Il vend des œufs, des poulets. Et puis, il est aussi coiffeur à domicile, à ses heures perdues. C'est une fonction qu'il a gardée après la guerre d'Algérie.
Coiffeur pour dames, je suppose.
Alors,
vu le nombre de conquêtes, mais on va en parler de ces conquêtes. Je voudrais, Marie Goodson, que vous nous parliez de cette scène de crime, parce que, j'allais dire presque miraculeusement, vous avez pu la visiter lors de votre enquête. Vous avez pu rentrer dans la maison du crime et voir à quoi ressemblait cette chambre. Alors, à quoi ça ressemble?
Oui, alors la maison d'Albert Lermoyer, elle est occupée aujourd'hui par sa nièce qui est aussi sa filleule. Et pour arriver à cette chambre, il faut monter déjà un escalier qui craque à chaque marche. Et puis donc on arrive dans une chambre qui est assez grande en fait. Aujourd'hui, elle a été réaménagée par la filleule. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un petit recoin dans la chambre et c'est à cet endroit-là que les enquêteurs supposent que le meurtrier s'est tapi en attendant l'arrivée d'Albert ou en tout cas avec l'arme du crime, mais pour commettre son méfait.
Pour pouvoir le surprendre dans son sommeil, ce qui apparaît être le cas. Bonsoir Eric Alphen.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir également notre invité dans l'heure du crime. Vous êtes actuellement président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Et à l'époque, vous avez été l'un des juges d'instruction dans cette affaire. Alors évidemment, on va parler de cette enquête et de ce que vous avez pu trouver à l'époque, mais un peu plus tard dans cette heure du crime. Je voudrais tout de même que vous nous disiez, selon vous, quel est votre ressentiment, si je puis dire, votre sentiment sur cette scène de crime. C'est un crime assez méticuleux, finalement, cette petite balle tirée quasiment à bout touchant.
Alors il faut savoir que c'était mon premier poste quand je suis arrivé à Douai. Et mon prédécesseur m'a tout de suite parlé de cette affaire en disant « Tu verras, tu vas découvrir un dossier. » Vous parliez tout à l'heure de Simenon, mais c'est exactement ça. Et c'est extrêmement intéressant pour un juge d'instruction qui arrive. Donc, je me suis plongé dans le dossier. Un de mes premiers actes, ça a été de dessaisir les gendarmes.
Oui.
Et d'essayer de faire un électrochoc en saisissant la police judiciaire, qui a tout repris à zéro. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que je suis moi aussi évidemment allé sur place. Et cette maison que Marie Goodson a vue occupée donc en vie, moi je l'ai vue totalement endormie, cette maison. D'abord, j'étais allé dans une petite cuisine et c'était donc 2 ou 3 ans après les faits. Il y avait encore des bouteilles de vin d'assez bonne qualité qui étaient entre les toiles d'araignée sur les rayonnages. Et c'était... Il y avait une pesanteur, il y avait une ambiance vraiment qui, encore des années après, faisait peur.
Comme si le monde, finalement, s'était figé à l'instant du crime, on peut dire, hein, c'est bien ça?
Absolument, tout à fait, oui. Et on parlait tout à l'heure du village de l'Écluse, et quand on m'avait raconté cette affaire avant que je lise le dossier, on m'avait dit « L'Écluse, c'est la petite Corse, c'est la Corse du Nord, les gens ne disent rien. » Et je garde le souvenir, effectivement, quand j'étais allé dans ce village, de voir, vous savez, les gens qui
écartent
légèrement les rideaux pour vous voir passer, les referment aussitôt, ils ne vous disent rien.
Difficile de savoir qui en voulait à cet homme au point de l'avoir exécuté comme le ferait un tueur à gages. Certainement pas un intrus ou un cambrioleur, mais tout au contraire quelqu'un qui connaissait intimement la victime et ses habitudes. Un mois déjà que Albert Lermoyer a été tué. Les gendarmes des brigades d'Arleux et de Douai sont bien décidés à élucider ce crime qui n'a pu être commis que par une personne qui côtoyait la victime. Les enquêteurs en veulent pour preuve que les deux chiens d'Albert, du genre plutôt bruyant à la vue d'un étranger, n'ont pas aboyé cette nuit-là. Le meurtrier a également choisi un soir où il ne risquait pas d'être vu ou dérangé, le voisin direct de la victime s'étant exceptionnellement absenté. Enfin, le tueur connaissait parfaitement les lieux. Il est passé par la porte de derrière qui n'est jamais fermée à clé. Les marches de l'escalier craquent, ce qui aurait pu réveiller Albert. Il n'est donc pas exclu que l'assassin l'ait attendu dans un recoin à l'étage, l'a laissé se déshabiller et s'endormir avant de passer à l'acte. Le petit calibre n'a émis qu'un claquement sec, pas de quoi réveiller le quartier. Les gendarmes recherchent cette arme dans la maison, les puits et les cours d'eau sont sondés, les talus inspectés sans résultat. Pistolets, revolvers et fusils datant de la Deuxième Guerre mondiale ne manquent pas à l'écluse, mais pas de revolver espagnol modèle 1892. L'enquête n'a pas de mal à établir que Albert Lermoyer n'était pas vraiment un célibataire endurci. Rien d'un vieux garçon solitaire. À l'écluse, tout le monde savait qu'il était un coureur de jupons. Les noms d'au moins 3 ou 4 femmes sont cités. La première à être entendue et placée en garde à vue par les enquêteurs n'est ni plus ni moins que sa propre belle-sœur qui a trouvé le corps. Albert aurait entretenu avec elle une liaison épisodique, mais cette piste ne tient pas. La belle-sœur n'avait aucune raison d'en vouloir à Albert. Elle est sincèrement éplorée par sa mort. Elle est mise hors de cause. Il y a encore Marcel, une agricultrice que Albert avait fréquentée. Tous deux se côtoyaient dans la cellule locale du Parti communiste, parti qui a toujours régné sur la commune. Le bruit va courir que Marcel aurait possédé un revolver espagnol. Sa ferme va être vainement perquisitionnée. La liste des amis, amantes ou prétendantes du bel Albert ne s'arrête pas là. Après avoir vécu longtemps seul, l'homme était sur le point de se mettre en ménage avec une certaine Morissette. Il y a enfin une voisine qui a accouché d'une petite fille que Albert n'a pas reconnue. Un compagnon ou un mari jaloux de toutes ses maîtresses aurait-il réglé son compte à l'adjoint au maire ? À l'écluse, le silence prévaut. La juge d'instruction de Douai, Martine Verrague, la première à hériter du dossier, se heurte à des impasses. Marie Goodson, vous publiez, journaliste à La Voix du Nord, vous publiez « Mais qui a tué l'adjoint de l'écluse » aux éditions Crime. C'est un livre sur cette affaire, évidemment, que vous avez retrouvé et déterré, si je puis dire. La seule certitude qu'on a dans cette enquête, c'est que finalement, c'est un familier qui a tué. Il ne peut pas en être autrement.
Oui, en tout cas, il n'y a pas eu de vol, donc on exclut le cambriolage, le crime crapuleux. Et puis, c'est vrai qu'il fallait qu'Albert ne se méfie pas pour qu'on puisse comme ça le tuer sans, et qu'on le retrouve allongé dans son lit. Alors, comme dit Martine Verrague, il dormait comme un bébé. On avait l'impression qu'il dormait comme un bébé. Il y avait une petite serviette pliée à côté de lui. Il était, on aurait dit aussi qu'il attendait quelqu'un, peut-être une maîtresse, parce qu'il était aussi bien mis, etc. Donc oui, on pense que c'est quelqu'un qu'il connaissait, qui a fait ça, que c'est une vengeance, que derrière ce meurtre, il y a une histoire de vengeance, mais quelle vengeance ?
Alors c'est important ce que vous dites, parce qu'il attendait peut-être quelqu'un, hein, pourquoi pas, est-ce qu'il y a eu un traquenard aussi, et puis que c'est une autre personne qui s'est présentée, tout est possible. Vous parlez de ces liaisons, je les ai brièvement évoquées, parce qu'elles sont très nombreuses, et puis tout ce milieu s'entrecroise un petit peu. La piste sentimentale ou adultère, comme on voudra, celle-ci, elle est vraiment, elle est abondante. Et c'est la belle-sœur qui est la première à être entendue, hein, par les gendarmes.
Oui, en tout cas, c'est l'une des premières. Les gendarmes vont quand même entendre énormément de personnes, d'après les témoignages qu'on m'a donnés. Il y a des affiches qui sont placardées dans le village et on appelle en quelque sorte à la délation. Et donc, cette belle-sœur, c'est celle qui trouve le corps, c'est la voisine d'Albert Lermoyer. Et puis, ils ont une proximité qui fait aussi qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de leur relation. Donc, elle est entendue en garde à vue pendant de nombreuses heures, au cours desquelles elle fait d'ailleurs un malaise. Et ses enfants gardent aujourd'hui encore une dent contre la gendarmerie parce que ils disent qu'il n'y a pas de médecin qui a été appelé alors qu'elle se sentait mal et qu'elle est ressortie traumatisée de cette garde à vue.
Alors, une vie très agitée pour Albert Lermoyer, une vie sentimentale très agitée. Il y a également une fille cachée. Et vous l'avez rencontrée d'ailleurs pour votre enquête, cette fille cachée.
Oui, ça a été l'une des rencontres les plus fortes de l'enquête, en fait. Déjà, on m'avait annoncé que cette fille était en quelque sorte le sosie en femme d'Albert Lermoyer. Parce que plusieurs membres de la famille d'Albert Lermoyer l'ont rencontré. Et quand ils l'ont vue, ils m'ont dit, ils sont restés complètement bouche bée devant elle parce qu'elle a la même façon de se tenir, les mêmes traits, etc. Donc, ils étaient saisis par cette ressemblance physique.
Et il faut juste préciser un mot, Marie Goodson, c'est que elle va continuer finalement à essayer de connaître la vérité pendant toutes ces années. Et jusqu'en 2012 d'ailleurs, parce qu'elle va même déposer une demande de réouverture du dossier.
C'est ça, en fait, à la mort de sa mère, elle a un gros passage à vide et elle décide, en fait, de taper à toutes les portes côté enquêteur, d'écrire au procureur de Douai de l'époque, d'écrire même au ministre de la Justice pour leur demander de rouvrir l'enquête et pour essayer, en fait, de comprendre qui a pu tuer celui qu'elle appelle papa. C'est aussi assez désarmant quand on la rencontre, la façon dont elle en parle. Elle dit « Je suis la fille de l'adjoint qu'on a assassiné », et on sent qu'elle est vraiment en quête de vérité.
Et elle se rend toujours sur sa tombe, je crois, d'après ce que vous
écrivez. C'est ça, trois fois par an, elle vient, je suis allée avec elle d'ailleurs, elle va déposer des fleurs sur la tombe de toute la famille Lermoyer, et notamment d'Albert Lermoyer.
Juge Éric Alphen, vous êtes, c'est votre premier poste à l'instruction à Douai à l'époque, vous nous l'avez rappelé. Vous n'êtes pas encore formellement dans le dossier, on va y venir dans le chapitre suivant, on va voir votre entrée dans le dossier. Juste un mot là-dessus sur la personnalité de Lermoyer. On dirait aujourd'hui c'est un homme à femme, c'est ça?
Oui, c'est un homme à femme, mais c'est vrai que, si vous voulez, pour parler clairement, la personnalité était intéressante, mais moi j'avais un dossier qui était déjà extrêmement épais quand je suis arrivé, parce que vous savez, quand on reprend un cabinet d'instruction, Martine Vérag était partie sous d'autres terres.
Ouais, je crois que vous aviez 350 dossiers, je crois, en cours, c'est ça? Un truc comme ça.
Il y avait peut-être pas 350, mais il y en avait beaucoup, en tout cas. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est déjà d'essayer de voir toutes les pistes, toutes les choses qui avaient pu conduire l'assassin dans cette maison. Et c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il était un homme à femme et qu'il y avait effectivement plusieurs femmes qui avaient été entendues, etc. Et il faut savoir que d'ailleurs, les gendarmes avaient fait des grands tableaux, comme on voit un peu dans les séries. Les murs étaient remplis de grands papiers sur lesquels ils faisaient des signes, des photos, etc.
Où les flèches devaient s'entrecroiser.
Voilà, absolument.
Les flèches de Cupidon devaient s'entrecroiser
mais
partout.
Mais cela étant, c'est vrai que quand je suis arrivé, ils avaient déjà enquêté depuis plus d'un an et demi. Et eux-mêmes, ils disaient qu'ils n'y arrivaient pas, quoi. Donc, moi, mon souci, c'était surtout de relancer l'enquête judiciaire. Plus je le reconnais que de m'apesantir sur la personnalité de la victime, qui était déjà par contre vachement bien détaillée par les enquêtes des gendarmes.
Impossible de trouver une piste solide conduisant au meurtrier d'Albert Lermoyer, un cavaleur qui a peut-être éveillé des jalousies. Le nom d'un homme apparu très tôt dans l'enquête va toutefois refaire surface. Pas n'importe qui, c'est un policier. En ces premiers mois de l'année 1984, le jeune juge Éric Alphen, qui s'illustrera bien des années plus tard avec l'enquête sur la mairie de Paris, reprend le dossier Lermoyer. Il vient d'être nommé à Douai et l'enquête semble enlisée. Quand il s'informe de cet immobilisme, un de ses collègues lui répond « Tu vas voir, L'écluse, c'est la petite Corse, analogie avec l'omerta qui règne parfois en matière criminelle sur l'île de Beauté. Le juge Alphen dessaisit alors les gendarmes au profit de la PJ de Lille. Il se plonge dans la procédure et note que les gendarmes ont méticuleusement exploré toutes les pistes. La magistrate qui l'a précédée, Martine Verhaeghe, a procédé à plusieurs auditions, dont celle d'un policier, un inspecteur divisionnaire du commissariat de Douai, dont il connaît bien le nom et qu'il croise dans les couloirs du palais de justice. Ce policier était soupçonné de détenir une arme identique à celle qui a tué l'adjoint au maire. Il avait alors démenti. Le juge creuse la piste de l'enquêteur et relève de drôles de coïncidences. Ce policier est originaire de l'Écluse. Il connaissait bien l'Hermoyer. Qui plus est, il est le frère de Marcel, l'agricultrice, l'une des relations féminines d'Albert. Autre curiosité, un an quasiment jour pour jour avant le meurtre, son épouse, qui aurait pu avoir une liaison avec l'Hermoyer, s'est volatilisée. On a retrouvé que sa voiture devant la gare de Béthune, l'épouse n'est jamais réapparue. Un soir de beuverie, l'inspecteur aurait déclaré à la cantonade « J'ai tué ma femme et j'ai emmuré son corps dans un immeuble en construction près d'Avesnes-sur-Helpe ». La PJ enquête donc sur ce drôle de collègue. Il est établi qu'un armurier de Douai l'a eu comme client. Le policier recherchait des munitions de calibre 8 mm, le calibre du meurtre, pour une arme ancienne. Armurier et inspecteur sont confrontés. Le premier maintient ses déclarations, le second dément, répète qu'il n'a jamais possédé de revolver espagnol modèle 1892. Le face à face en reste là. Le juge Alphen a des doutes, mais il ne peut pas les étayer. L'inspecteur divisionnaire Marie Trompé aurait-il éliminé son épouse, puis par rancœur et vengeance tué un an plus tard, à une date anniversaire, Albert Lermoyer? Des supputations, uniquement des supputations. L'enquête n'ira pas plus loin. Éric Alphen, donc vous êtes, c'est votre premier poste de juge d'instruction à Douai et vous avez en charge cette affaire. On s'arrête sur cette piste du policier local. Vous avez à l'époque vraiment le sentiment de tirer un fil intéressant ?
Ben en tout cas, c'était une suspicion importante, oui. D'autant que, effectivement, le policier ne se cachait pas tellement, même vis-à-vis de ses collègues. C'est-à-dire que je me souviens qu'un de ses collègues m'avait raconté un jour que, effectivement, il aimait bien boire, ce policier. Et un soir où ils buvaient tous les deux un verre, il lui avait dit, de toute façon, je sais très bien qu'Alphen, il me mettra en prison, mais c'est pas grave, je dirai rien. Et de toute façon, il saura jamais quoi. Ah il saura jamais exactement ce qui s'est passé.
C'était une fanfaronnade, mais enfin, bon, effectivement, ça prête à confusion. C'est le moins qu'on puisse dire.
Et effectivement, ce qui est quand même curieux, c'est qu'il y a eu dans plusieurs autres affaires, puisqu'il était enquêteur au commissariat de Douai, donc je le voyais régulièrement. Il m'amenait des déférés, il m'amenait d'autres dossiers. Et à chaque fois, il y avait un espèce de regard du style... Le chat et la souris, quoi, vous ne m'aurez pas.
Ouais. Alors, c'est effectivement un jeu du chat à la souris, on l'a bien compris. Vous allez le confronter notamment à cet armurier. Ça, c'est extrêmement troublant, cette recherche de munitions pour une arme qui n'est pas banale. En l'occurrence, ce revolver espagnol qui est en fait une reproduction d'un modèle Smith & Wesson.
Oui, je vous précise quand même que l'armurier était allé plus loin que le fait que c'était des cartouches 8 mm pour une arme ancienne. Il m'avait même dit que le policier lui avait dit que c'était pour un revolver 1892 et il lui avait même montré, m'avait dit à l'époque l'armurier.
Oh, alors là, effectivement, on est dans la précision, troublant.
C'était la parole de l'un contre la parole de l'autre et c'est tout. Hein.
Oui, et vous n'aviez pas les moyens. En tout cas, l'arme...
Non, j'ai fait rechercher par les policiers des photos anciennes chez le policier, dans son entourage, pour essayer de retrouver éventuellement une photo sur laquelle on aurait aperçu un bout d'arme, et puis ça a raté.
Et cette arme n'a jamais été retrouvée, hein, il faut le préciser, Éric Alphen. Et Éric Alphen, il y a aussi un autre élément qui pourrait accréditer celle d'un professionnel, entre guillemets, c'est que l'Hermoyer a été tué vraiment avec une précision extrême. C'est quelqu'un qui sait tirer qui fait ça.
Absolument, mais je vous entendais tout à l'heure parler du médecin. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que le médecin, au départ, n'avait rien vu,
oui, il a rien vu
de criminel et que vraiment, il s'apprêtait à délivrer le permis d'inhumer.
Oui, puisqu'il est revenu même sur les lieux, le médecin.
Absolument. Et donc, pour aller dans le sens de ce que vous dites, effectivement, c'était très bien fait. C'était pas à bout touchant, mais c'était à bout très 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 proche. Et il fallait, enfin tout montrait que ça que ça pouvait être le travail d'un professionnel. Moi, ce qui, enfin mon apport à moi, si je puis dire, parce que chacun a essayé d'apporter sa pierre à un édifice qui finalement n'a jamais été construit, mais c'est cette histoire de disparition de sa femme un an jour pour jour à la gare de Béthune. Et ce qu'on pouvait penser, c'est que peut-être un an après, Lermoyer lui en avait parlé en disant « Tu te souviens de ce que j'ai vu ?» parce que peut-être qu'il avait vu quelque chose ou que l'autre lui en avait parlé et que peut-être on aurait vu un moyen de...
D'éliminer
un témoin gênant, en fait.
D'éliminer un témoin gênant. Marie Goodson, vous publiez un livre sur cette histoire, mais qui a tué l'adjoint de l'Écluse? Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu, ce policier suspecté, à un moment donné, d'être l'auteur de ce crime?
Oui, il est décédé dans les années 90. Et bon, après, en tout cas, après les faits, là, il a occupé différents postes dans le nord de la France. Et puis voilà, il est décédé.
Il a jamais fait état de confidence ou etc. Ultérieurement, hein, donc on en est resté là. Non. Il a gardé le silence.
Non, il n'y a rien eu du tout. Rien n'est filtré. Si, il y avait quelque chose.
Bien sûr, Marie Goodson, je voudrais que vous nous donniez un petit peu un catalogue des autres pistes. Il y a la piste sentimentale, on l'a bien compris, qui paraît être un mobile peut-être le plus important, le plus actif, mais on dit aussi, et Eric Alphen vient de nous le dire, que peut-être Lermoyer aurait été témoin de certains trafics, de prêts d'argent, de choses qu'il n'aurait pas dû voir.
C'est ça. En fait, il y en a énormément d'autres pistes qui sont évoquées, mais aucune piste parmi celles qui m'ont été évoquées n'ont le sérieux et puis ne réunissent autant d'éléments que les deux précédentes, la piste passionnelle et puis l'histoire de cet inspecteur. Mais donc parmi les pistes, ce qu'on peut dire, c'est que Albert aurait peut-être été témoin de granges incendiées volontairement lors d'escroqueries à l'assurance. Peut-être qu'il aurait été témoin d'un trafic de drogue près du cimetière, ou encore d'un détournement d'argent au sein du Parti communiste. Ce qui ressort en fait de tout ça, c'est que on me dit qu'Albert avait un défaut, c'est qu'il laissait traîner ses oreilles un peu partout, qu'il était ce genre de personne qu'on surprend derrière la porte en train d'écouter une conversation, et donc que peut-être et très probablement il a été au courant de choses qu'il n'aurait peut-être pas dû savoir.
Les mobiles, on le voit, ne manquent pas, en particulier celui d'une liaison amoureuse. Mais impossible de savoir qui a tenu l'arme du crime. Les rares témoignages recueillis à l'Écluse où personne n'a envie de parler finissent par se tarir. Tout le monde va vouloir oublier la mort de l'adjoint au maire. Le 4 février 1991, le juge délivre une ordonnance de non-lieu dans l'affaire Lermoyer. Les gendarmes puis les hommes de la PJ de Lille n'ont pas réussi à engranger un élément, un indice, un témoignage susceptible d'éclairer ce mystère. Dès les premières heures de l'enquête, ils avaient dû composer avec une scène de crime largement polluée par le passage de nombreux visiteurs venus saluer un défunt qu'on croyait mort de sa belle mort. Le village de l'Écluse s'était ensuite refermé comme une huître, ne laissant filtrer aucune information digne de ce nom. La recherche ADN, inexistante à l'époque, ne pourra donc pas contribuer à élucider cette affaire. Aucun nouvel acte d'instruction diligenté pendant 10 ans. Le dossier est déclaré prescrit le 4 février 2001. Le procureur de la République de Douai refuse en 2012 de rouvrir l'enquête comme le demandait la fille cachée d'Albert Lermoyer. Il explique qu'aucun élément nouveau n'est apparu. Désormais, seul un témoignage ou une confession pourrait relancer l'affaire. 40 ans après les faits, personne ne sait si l'homme ou la femme qui a tué Albert Lermoyer est toujours de ce monde. À l'Écluse, où ce drame silencieux a marqué durablement la mémoire de la commune, on aime bien répéter que ce crime-là était un crime parfait. Eric Alphen, vous avez enquêté sur cette affaire, c'était même votre premier poste à Douai et l'un de vos premiers dossiers criminels. Je le disais, si le crime parfait existe, c'est un crime qui a été commis à l'Écluse, c'est bien ça ?
Ben, c'est vrai que ça a tout du crime parfait, c'est-à-dire que ça a été très bien exécuté sur une victime qui pouvait susciter plusieurs envies d'en découdre avec lui, pour des raisons variées. On a parlé politique, on a parlé femme, on a parlé témoignage, on a parlé vengeance. Et du coup, à part, je dirais, la seule imperfection, c'est les gens qui parlent trop. Mais si personne n'avait parlé, à la limite, on n'aurait même pas eu cette piste-là.
Et justement, des gens qui parlent trop, alors là, c'est pas vraiment le cas à l'Écluse, hein, qu'on vous a décrit comme une petite Corse où l'omerta régnerait. Les témoignages que vous avez vus, vous, à l'époque, dans le dossier, qu'est-ce qu'ils disent? Ils s'appuient quoi? C'est des rumeurs? Il se pourrait que? Comment ça se passe?
Malheureusement, vous savez aussi bien que moi que pour un dossier criminel, quand on veut le faire aboutir, il faut avoir des éléments matériels précis, des déclarations concrètes et concordantes. Et là, on n'avait rien. Les gens que j'étais allé voir à l'Écluse laissaient entendre que faisaient des allusions plus ou moins directes, mais c'est tout. Et donc, un juge d'instruction et la justice en général ne peut pas s'en satisfaire pour faire aboutir de façon plus concrète un dossier. Donc, c'est resté quand même des années après, encore en mon esprit, comme un regret, ce dossier. Parce que quand on a un dossier criminel aussi intéressant, attachant et motivant, on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Oui, c'est ça. Ça vous laisse un goût de frustration, on peut dire. Hein,
un goût d'inachevé, absolument. Voilà,
c'est ça, ce dossier. Encore une petite question, Eric Alphen. J'ai vraiment évoqué, balayé l'ADN, évidemment, qui n'existe pas à cette époque. Est-ce que, et une scène de crime en plus qui a été, on peut le dire, saccagée, et avec des empreintes qui ont été brouillées, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'ADN, on aurait une chance de connaître qui a tué l'adjoint au maire?
Je vais vous dire oui ou non. Oui, évidemment, dans la majorité des crimes, les gens ne font pas attention et du coup, on peut trouver des empreintes ADN un peu partout. Vous parliez tout à l'heure du fait que c'était peut-être un professionnel. Et un professionnel, sachant que l'ADN existe, aurait fait attention lui aussi à ne pas en laisser.
Bien sûr, oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, les malfaiteurs et les malfrats vont toujours plus vite que la police, hein, c'est bien connu. Et
puis tout le monde se met à niveau, quoi.
Voilà, ils ont toujours un coup d'avance, si je puis dire. Marie Goodson, on vous retrouve. Vous êtes également notre invitée ce soir dans l'heure du crime, journaliste à La Voix du Nord, et je le rappelle, auteur du livre « Mais qui a tué l'adjoint de l'Écluse » aux éditions Crime, livre que je conseille à tout le monde parce que c'est absolument passionnant et palpitant. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à l'Écluse sur ce crime? Je crois que vous avez retrouvé une ambiance, pas comme à l'époque, mais en tout cas où les portes n'étaient pas forcément très ouvertes là-dessus.
Oui, en effet, Eric Alphen, comme d'autres personnes qui ont joué un rôle très important à l'époque, m'avait dit « c'est la petite Corse ». Et moi, j'ai eu l'impression inverse en allant frapper aux portes ces derniers temps, parce que j'avais l'impression que les gens avaient besoin de parler, avaient envie vraiment de vider leur sac, de dire ce qu'ils savaient de l'affaire. Alors après, quitte à, comme le dit le juge Alphen, ne donner que des témoignages qui sont nourris de rumeurs et de choses qu'on ne peut pas vérifier aujourd'hui, quoi.
Mais en tout cas, vous a parlé, c'est-à-dire que vous avez effectivement, je l'ai vu hein, dans votre livre, vous avez interrogé beaucoup de personnes. On vous a claqué un peu la porte au nez de temps en temps, il faut le dire quand même. Mais en général, vous avez pu avoir des témoignages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mémoire de ce fait divers, de ce crime, est toujours vive à l'Écluse aujourd'hui?
Oui, elle est vive. Et ce qui me marque, en fait, dans cette enquête, c'est que on a l'impression que le temps a permis aux langues de se délier et qu'en même temps, il y a des choses qui nous échappent irrémédiablement parce que le temps, justement, a joué en défaveur de la vérité. Et puis, parce qu'on peut plus, il y a des protagonistes qui sont décédés, qui pourront plus parler. Certains sont trop âgés et n'ont plus leur tête pour me parler, et donc on restera certainement avec des pièces manquantes.
Vous avez rencontré la famille d'Albert Lermoyer?
Oui, alors j'ai rencontré, alors par exemple cette belle-sœur est aujourd'hui décédée, mais j'ai pu m'entretenir longuement avec plusieurs de ses enfants, par exemple.
Et quel est leur sentiment aujourd'hui? Ils vivent toujours un petit peu avec cette histoire ou ils essaient finalement de la balayer et ça appartient au passé?
Alors c'est assez différent selon les enfants. Ils sont quatre, donc il y en a un qui n'a pas voulu me parler parce que justement c'était quelque chose qui était trop sensible, un sujet qu'il ne souhaitait pas aborder. Et puis il y en a un autre, notamment la Dominique Lermoyer que je cite assez longuement dans le livre, et qui lui a toute une approche de l'affaire et qui était très proche hein, de son oncle. Tous me disent c'était comme leur frère en fait. C'était vraiment comme un grand frère pour eux. Et donc, ils ont soif de vérité.
Et il y a toujours soif de vérité, hein, ça c'est important. Hein.
Ah oui. Et justement, c'est ce qui me marque dans cette affaire, parce qu'il y a Albert Lermoyer est la victime principale. Il est décédé aujourd'hui, il a été tué. Mais il y a d'autres victimes collatérales, en quelque sorte, qui sont ses neveux et nièces, qui sont sa fille cachée et qui sont aussi, selon moi, les enfants de cet inspecteur de police qui savent que leur père est le principal suspect et bon, pour qui la plaie est certainement encore ouverte.
Merci beaucoup Marie Goodson et Eric Alphen d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec le meurtre de Albert Lermoyer. Cet homme a-t-il payé au prix fort son goût pour les aventures sentimentales? Peut-être. Son tueur, dans tous les cas de figure, reste dans l'ombre. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime. RTL.